Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, émission mensuelle de Sortir du nucléaire, Drôme Ardèche. Eh bien, par cette journée pluvieuse, nous n'allons pas parler aujourd'hui que du nucléaire. En effet, nos deux départements les plus nucléarisés d'Europe font l'objet d'une attention particulière et intéressée des industriels du pétrole. Le gaz de schiste attire les convoitises. La population, depuis plus de 3 ans, se mobilise. Anne Dès de la Frapna est avec nous aujourd'hui pour en parler. Bonjour Anne.
Bonjour.
Et avant de discuter avec Anne justement de ce gaz de schiste, la place à nos billettistes, Georges sur Fukushima.
Oui, oui, toujours présent. Je vais d'abord vous parler d'un séisme de magnitude 7.1 qui a eu lieu le 26 octobre à plusieurs centaines de kilomètres au large des côtes du Japon. Suite à l'annonce du tsunami, TEPCO a décidé d'ordonner l'évacuation partielle de la centrale de Fukushima. Une vague de 30 à 40 cm a été observée sur les côtes, mais rien d'anormal sur le site de la centrale. Maintenant, des infos en vrac sur les travailleurs, travailleuses de Fukushima. Alors, le 20 juillet, un journal de Fukushima a écrit « En 2011 et 2012, 1177 personnes ont quitté TEPCO, dont 40% d'administratifs, et entre avril et juin 2013, 109 démissions ont été enregistrées, car il est demandé au personnel un surcroît de travail non compensé. Or, M. Hirose, président de TEPCO, a déclaré stopper provisoirement les départs en donnant 100 000 yens, soit 1 000 euros aux employés. Le 30 septembre du même journal, TEPCO emploie 3 000 travailleurs. Compte tenu des normes maximum d'irradiation dans les centrales, soit 50 millisieverts par an et 100 millisieverts pour 5 ans, les travailleurs expérimentés s'en vont et laissent place à des jeunes non formés. Il en résulte que les travailleurs, pour des risques de plus en plus élevés, lorsqu'ils travaillent longtemps, ne sont pas surpayés, alors que les décontaminateurs des sols et habitations reçoivent un salaire spécial. Donc, pour toutes les raisons précédentes, et aussi pour construire les stades nécessaires aux JO de 2020, de nombreux travailleurs seront nécessaires. Le tout combiné au fait que le retrait programmé par TEPCO des combustibles des réacteurs 1, 2, 3 de Fukushima pour aussi 2020 nécessite 500 personnes en 2013, 4600 en 2014 et 8000 en 2015. Toutes ces infos posent au Japon, face à la pénurie de main-d'œuvre, la question du choix de priorité, à savoir les JO de 2020 ou le démantèlement des réacteurs. Enfin, en date du 21 octobre, l'AIEA, à savoir une mission de 16 personnes envoyées à Fukushima, communique que les Japonais peuvent habiter les zones contaminées à condition de porter des dosimètres sur eux et accepter une dose maximum de 20 millisieverts par an, alors que les territoires contaminés de Tchernobyl ont été évacués à partir d'une radioactivité de 5 millisieverts par an. Enfin, il faut savoir qu'à Tchernobyl, sur les territoires inférieurs à 5 millisieverts par an, 3/4 des enfants ne sont plus en bonne santé. Souvenez-vous que le Premier ministre du Japon, M. Naoto Kan, a déclaré en 2011 que le meilleur moyen, en résumé, d'affronter les risques nucléaires, dont celui des déchets, est de supprimer les centrales. Donc, SIC, c'est-à-dire ce qu'il a dit, de se tourner vers le zéro nucléaire. Quelques chiffres récents de fin octobre, de mesures comparées de radioactivité entre Tokyo, soit 0,05 millisievert par heure, et Koriyama, 0,306 millisieverts par an, par heure. Cette ville, Koriyama, est à plus de 130 km. Et enfin, à Nihon Matsu, à 250 km de Tokyo, c'est entre 0,6 et 0,7 millisieverts par heure. Quant à la mairie de Fuku, c'est entre 0,34 et 0,37 millisieverts par heure et des sacs de déchets non enfouis avec 50% des habitants qui veulent partir et ne peuvent pas. Enfin, au 30 octobre 2013, le gouvernement japonais définit 3 zones. Alors la première zone, des zones inhabitables au retour difficile car la radioactivité est de 50 millisieverts par heure, représentant 25 000 habitants. Donc relogement dans d'autres zones avec une aide financière. TEPCO serait donc obligé de mieux indemniser les maisons abandonnées. La deuxième zone, des zones regroupant 23 000 habitants avec restriction de vie. La troisième zone, des zones relatives à 33 000 habitants où les ordres d'évacuation seront levés. Dans les zones où le retour est prévu, les travaux de rétablissement d'infrastructures publiques, je vois qu'on me fait des signes, mais c'est tout bon. Alors, je reprends. Dans les zones où le retour est prévu, les travaux de rétablissement d'infrastructures publiques et de décontamination seront hâtés. Merci. Voilà, c'était les grandes nouvelles de Fukushima.
Merci Georges. Pierrick, toi tu veux nous parler des exercices d'alerte du Tricastin, c'est ça ?
Oh, juste avant, je vais les mettre en perspective. Donc bonjour à tous et à tous. Je vais vous conter un petit traité de mensonges par omission, pour mieux vous endormir à la sauce atomique. Donc quelle que soit votre activité, soyez prudent. À la fin de mon billet, le marchand de sable passera, préparez votre oreiller et votre doudou. Les membres de la CLIGET, la commission en charge d'informer les citoyens sur une activité, l'activité atomique et chimique du site, ne peut pas disposer d'informations réglementaires pour se forger une opinion. Pourtant, quand un exploitant est face à un incident, ce dernier est obligé de dresser un PV à destination des autorités. Il serait normal que les membres de la dite commission puissent bénéficier de cette information initiale. Mais il n'en est rien. À la place, l'exploitant et l'autorité de sûreté du nucléaire envoient des communiqués de presse rédigés avec soin par leur service communication. Il va sans dire que le contenu de l'information a quelque peu évolué. À Reva, le 30 septembre dernier, pour le compte d'une de ses anciennes usines d'enrichissement de combustible, nous expliquait l'incident survenu lors des opérations préalables au démantèlement. Je cite. Un écart est survenu lors d'une opération consistant à extraire de l'uranium d'un équipement de l'usine Eurodif. Le niveau de pression pour cette extraction était légèrement supérieur aux exigences du référentiel d'exploitation. Dans l'attente des résultats de contrôle, les opérations d'extraction ont été suspendues. 10 lignes en tout et pour tout. 8 jours plus tard, l'ASN déballe 30 lignes pour ce même événement, ce même problème. Lors de l'extraction du mélange du F6 et de CLF3 d'un diffuseur, le CLF3 qui aurait dû rester gazeux est condensé dans un équipement, du fait du non-respect des procédures. En raison des risques représentés par le CLF3 liquide, la pression à la température aurait dû être maîtrisée pour prévenir la condensation de CLF3. CLF3, qu'est-ce que c'est ? Merci Internet. Le CLF3 est un gaz incolore qui se condense en un liquide jaune verdâtre. Il est très réactif, corrosif et toxique. Au contraire, au contact des matières organiques, et minérales, il s'enflamme spontanément, parfois même de façon explosive. Le communiqué de presse d'Areva, lui non plus, ne connaissait pas le CLF3. Ça fait réfléchir quand on sait les quantités massives de CLF3 présentes sur le site du Tricastin. J'ajoute que des sources internes ont noté deux événements similaires pendant l'été, mais sans qu'aucun ne fasse l'objet de déclarations à l'ASN. Encore une dissimulation qui ne peut être prouvée, car en pareille situation, nous sommes tous, y compris l'ASN, l'autorité, tributaires de la bonne volonté de l'exploitant de communiquer. Enfin, face à ce constat de mensonge par omission, je vous invite à participer à la réunion publique de Saint-Paul-Trois-Châteaux ce mardi. La protection civile et la préfecture souhaitent vous informer car elles préparent pour jeudi un exercice qui implique 11 000 personnes visant à faire face à un accident nucléaire majeur au Tricastin. Comme tout le monde le sait, en pareille situation d'accident, dans la vie réelle, le marchand de sable lui aussi passera deux jours avant pour nous endormir afin de parer à tout mouvement de panique face à la bérésina atomique. Dormez tranquille et bonne journée à vous.
Merci Pierrick. Ben moi je vais faire un tout petit billet seulement, mais pour parler un peu, il faut savoir se faire plaisir quelquefois à la radio d'une petite victoire. On sait que l'industrie nucléaire fait l'objet de nombreux lobbies très puissants, il y a beaucoup d'argent derrière. Et on vient d'avoir une petite victoire, c'est l'Observatoire du nucléaire animé par Stéphane Lhomme, personnage emblématique du mouvement antinucléaire, qui, lors de l'audience du 6 septembre du jury de déontologie publicitaire, saisi par l'Observatoire justement, vient d'obliger des grandes entreprises, Renault, Citroën, Opel, Nissan, Mitsubishi, à rectifier leur publicité concernant les véhicules, les voitures électriques. Alors que dit Renault ? La mention du caractère écologique du véhicule électrique Zoé, je les cite volontairement, sans aucune relativisation, est en effet contraire aux engagements que nous avons pris en signant la charte pour une communication responsable. Citroën, cette page concernant la C0 intègre effectivement des termes contraires à la stratégie nationale de développement durable. J'ai donc fait procéder immédiatement à la correction de cette page à la réception de votre courrier. Opel General Motors, la communication sur l'Opel Ampera à laquelle vous vous référez est en effet inexacte et maladroite. Aussi, à réception de votre courrier, nous l'avons immédiatement corrigé. Quant aux deux constructeurs japonais Nissan et Mitsubishi, ils ont été aussi ramenés à la raison. Ces deux constructeurs japonais qui, en pleine catastrophe de Fukushima, devraient savoir mieux que quiconque qu'une voiture électrique rechargée à l'électricité nucléaire est aussi polluante que tout autre modèle. Désormais, Mitsubishi admet qu'un véhicule électrique ne peut plus être regardé comme ayant aucun impact sur l'environnement. Et pour sa part, Nissan a fait savoir que cette publicité a échappé à la vigilance de ses services en charge du respect des règles déontologiques. L'Observatoire du nucléaire constate cependant qu'un groupe n'a pas répondu pour l'instant, ce qui s'appelle le groupe Bolloré, celui qui fait les voitures gratuites à Paris, qui continue à prétendre que son modèle LEAF, L-E-A-F, est un véhicule propre, mention qu'il s'était pourtant lui-même engagé à retirer afin de ne pas créer de confusion dans l'esprit du consommateur. L'Observatoire du nucléaire rappelle, après cette petite victoire, mais importante quand même, qu'un véhicule électrique ou non n'est jamais propre ou écologique, et ce pour au moins quatre raisons principales. La construction de tout véhicule nécessite des matières premières et de l'énergie, dont notamment l'extraction et la production ont inévitablement des impacts sur l'environnement. Tout véhicule motorisé utilise des pièces et éléments extrêmement polluants, en particulier les pneus et les batteries. Tout véhicule représente une certaine quantité de déchets lorsqu'il arrive en fin de vie. Et enfin, l'énergie utilisée pour faire fonctionner un moteur est toujours cause de pollution, notamment lorsqu'on fait appel à l'énergie nucléaire. Voilà, donc un grand merci à l'Observatoire du nucléaire et je vous propose d'écouter. Alors François Béranger, c'est exceptionnel, vous n'allez entendre que des chansons de François Béranger dans cette émission. Il y a 10 ans qu'il est mort, ce chanteur libertaire est un peu oublié aujourd'hui. On a décidé de le faire sortir de l'oubli. Merci à vous.
Réprimez-moi si vous voulez, à cause de mes cheveux trop longs, à cause de ma gueule arrogante au passage des quarts de poulet. Donnez-moi des coups de pied dans le fion, des coups de bidule dans les roustons, puis enfin traitez-moi de tante, faites-moi une tête bien rasée. Comme les nazis en l'an 40, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Et je vous emmerde. Réprimez-moi si vous voulez, pour avoir essayé d'aimer. Sur les pelouses interdites, hors des institutions sacrées. Sacré nom de Dieu, c'est meilleur, essayez pour voir et puis dites. Divorcez-moi, châtrez-moi le cœur et puis le reste aussi, quel bonheur. Et mangez-les avec des frites, vous n'aurez pas ma fleur. Celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur. Vous êtes les plus forts, mais tous vous êtes morts. Réprimez-moi si vous voulez. Être différent c'est un crime. Être noir ou jaune ou béni, ne pas respecter votre frime. Avez-vous une fois seulement songé que la haine ça mine, alors que l'amour ça détend, que ça range des comptes tout le temps. Mais bien sûr c'est un gros péché, vous n'aurez pas ma fleur, celle qui me pousse à l'intérieur. Fleur cérébrale et fleur de cœur, ma fleur. Fleur de cœur, ma fleur.
Bonjour, à la voix le micro. Donc aujourd'hui, nous accueillons Andes de la FRAPNA, Fédération Rhône-Alpes des associations de la protection de la nature. Anne, on vous a beaucoup vu dans les manifestations contre le nucléaire, la chaîne humaine en particulier. On vous a aussi vu souvent dans des manifestations contre le gaz de schiste, Villeneuve-de-Berg il y a 2 ans, plus récemment à Montélimar il y a 3 semaines. Et donc, c'est vrai que dans cette journée contre la fracturation hydraulique à Montélimar, on a beaucoup parlé de fracturation hydraulique. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, rappeler à nos auditeurs ce qu'est cette fracturation hydraulique, si certains d'entre eux l'ignorent encore, et quels sont les risques environnementaux qu'elle peut entraîner ?
Ah oui, dire en quelques mots, ce sera difficile, tant les risques environnementaux des recherches et d'exploitation des gaz de schiste sont importants, mais on va s'y mettre. En préalable, je voudrais d'abord rappeler 4 caractéristiques principales du gaz de schiste. C'est une énergie fossile, des plus polluantes. Selon une étude américaine, les émissions de gaz à effet de serre produites par le gaz de schiste seraient pires que celles du charbon et du mazout. C'est un hydrocarbure non conventionnel, car il est prisonnier de la roche, en opposition aux hydrocarbures conventionnels qui sont concentrés par poche dans les gisements. Les techniques de recherche ou exploration et d'exploitation sont les mêmes. Le plus grave est que les dégâts écologiques de ces recherches et de son exploitation sont aujourd'hui irréversibles. Alors, pour revenir à la fracturation hydraulique, cela consiste à réaliser des forages pour atteindre la couche profonde de schiste située entre 2000 et 3000 mètres. Pour Villeneuve-de-Berce, c'était 1000 à 1500 mètres, et à faire exploser la roche par forage horizontal à l'aide d'un mélange composé d'eau, 90%, 9,5% de sable et de produits chimiques, 0,5%, propulsé à très haute pression. Cela crée des fissures dans le sous-sol qui libèrent le gaz, équivalent à un petit tremblement de terre. Le gaz prisonnier de la roche est donc libéré puis évacué vers des réservoirs ou des pipelines. Alors juste une note d'humour, les pétroliers parlent maintenant de massage de la roche mère et non de fracturation hydraulique, disons que c'est peut-être plus sexy. Alors pour la fracturation hydraulique, par définition, il faut beaucoup d'eau. Chaque explosion de la roche demande 15 à 20 millions de litres, soit la consommation quotidienne d'une ville de 40 000 habitants. La progression de la fracturation est suivie par des sables radioactifs, dits traceurs, qui restent dans le sous-sol. Les environ 595 produits chimiques propulsés à très haute pression commencent à être connus grâce à l'action des écologistes nord-américains. Ce sont des biocides, des lubrifiants, des produits, dits détergents. La plupart de ces produits sont interdits en Europe par la directive REACH. Alors, en ce qui concerne les risques environnementaux, je vais commencer par le plus important, c'est le risque sur l'eau, la pollution de l'eau. Donc, les gaz libérés remontent vers le sol, avec tous les risques de fuite dans les canalisations. Les produits chimiques injectés, mais aussi les sels dissous, pollueraient les nappes phréatiques. Ensuite, on peut dire que jusqu'à maintenant, aucune étude n'a été réalisée. Et c'est vrai que les industriels jouent sur ce manque d'études et nient cette pollution. Mais tout le monde a vu Gazlang, a vu l'eau
qui sort. C'est ce qu'on se disait avec la fameuse flamme qui sort des robinets. Là, voilà.
Voilà, tout à fait. Il y a un problème de traitement de l'eau. L'eau récupérée est stockée dans des bassins. Il n'existe pas de procédé d'épuration actuellement. Et comme on l'a vu dans Gazland, l'eau, quelquefois, elle s'évapore avec tous les produits dans l'eau. Alors, pollution.
Donc, enfin, si nous comprenons bien, cette technique est extrêmement polluante. Et donc, vous devez être content que le Conseil constitutionnel ait récemment justement interdit cette fracturation hydraulique compte tenu des risques que vous évoquez.
Oui, nous sommes très contents. Simplement, vous savez très bien que les industriels ne désarment pas. On le verra par la suite. La fracturation hydraulique, mais il peut peut-être y avoir d'autres moyens de fracturation. Qui peuvent être, actuellement, il y a des recherches qui se font par propane, arc électrique, mais pour le moment, tous les industriels reconnaissent dans tous les rapports que seule la fracturation hydraulique est actuellement rentable pour faire rechercher et exploiter les gaz de schiste.
Oui, alors ce que vous nous dites, c'est que les industriels n'ont pas renoncé à exploiter les gaz de schiste avec d'autres techniques que la fracturation hydraulique, mais que pour l'instant, rien n'est au point.
De toute façon, il y a des recherches, mais actuellement, rien n'est au point. Rien d'autre au point. Il n'y a que la fracturation hydraulique qui est utilisée. Et il faut savoir aussi que cette fracturation hydraulique, ce sont des brevets américains et qu'aucune entreprise française n'est capable de le faire.
Alors justement, si cette fracturation hydraulique, donc avec tous ces risques, a été interdite par le Conseil constitutionnel, pourquoi avoir manifesté à Montélimar il y a 3 semaines? Pourquoi ces 2500 personnes dans la rue?
Alors... Il faut revenir un peu en arrière. La mobilisation en 2011 avait permis le vote d'une loi qui a été promulguée le 13 juillet 2011 qui interdit la fracturation hydraulique, interdiction qui a été confirmée par le Conseil constitutionnel. Mais cette loi, elle a deux articles, 2 et 3, qui sont pervers. L'article 2 prévoit la possibilité d'expérimentation réalisée à seule fin de recherche scientifique sous contrôle public. Et l'article 3 prévoit la création d'une commission qui, justement, serait chargée de superviser ces expérimentations et cette recherche. Or, Delphine Bateau avait toujours refusé la mise en place de cette commission, il n'y a qu'une seule personne qui a été désignée par le Sénat. En l'occurrence, c'était Michel Teston. D'ailleurs, on pense que c'est quand même une manœuvre un peu bizarre. Mais c'est donc maintenant, les industriels l'ont très bien compris et font pression sur le gouvernement pour mettre en place cette commission et s'engouffrer dans cette possibilité d'expérimentation.
Ça veut dire que demain, vous craignez que le lobby des pétroliers et des gaziers se mette à faire des recherches expérimentales partout ?
Oui, si cette commission est mise en place. Et moi, ce que nous craignons, c'est que des pétroliers saisissent la justice pour obliger le gouvernement à mettre en place cette commission. C'est pour ça que la loi du 13 juillet à l'époque, pour nous, était imparfaite. Mais on craignait toujours ça. Et d'ailleurs, dans de nombreux articles dans les Épines de Romoise, nous l'avons écrit, il y a toujours cette porte qui est entrouverte et que les pétroliers veulent ouvrir encore.
D'accord, donc il faut rester extrêmement vigilant. Et donc ces mobilisations, et donc ces manifestations, et en gros, si on peut résumer, le gaz de schiste, c'est loin d'être fini.
Oui, et puis il y a un autre point aussi, c'est que le gouvernement s'est engagé dans la réforme du code minier. Et donc le code minier, il existe depuis 1810, avec des modifications depuis 1919, et il faut dire que c'est un empilement de réglementations qui sont devenues obsolètes et qui sont contraires à la charte de l'environnement qui a été inscrite dans la Constitution. Donc normalement, ce code minier est en cours d'élaboration et une loi devait passer au Parlement à l'automne 2013, mais c'est mal barré, mais d'où il faut être encore vigilant, parce que notre demande, c'est que dans ces codes miniers, les recherches et l'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels sont interdites.
Mais alors, vous avez un peu devancé ma question, parce qu'effectivement, code minier, on pense à permis. En France, effectivement, le sous-sol n'appartient pas aux individus, c'est l'État qui le gère, et donc c'est l'État qui délivre des permis. Mmh. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors que la fracturation hydraulique est interdite, que des permis soient délivrés encore par le gouvernement ?
Alors, il y a deux types
qu'en
de permis.
Qu'en est-il de tous ces permis ?
Il y a les permis qui ont été délivrés avant la loi du 13 juillet 2011. Et c'est vrai que ces permis ne faisaient pas explicitement allusion à la fracturation hydraulique, mais c'est vrai que quand on lit les rapports, il y en a beaucoup pour les mettre en œuvre qui seront obligés d'utiliser la fracturation hydraulique. Or, ils n'ont pas été abrogés. Ensuite, le gouvernement continue à donner quelques permis, notamment pour le gaz de couche dans les anciennes mines de houille en Lorraine et dans le Pas-de-Calais.
Ce qu'on appelle l'huile de schiste, en fait,
L'huile de schiste, c'est le pétrole, et là, c'est du gaz de couche, c'est-à-dire d'accord. C'est l'ancien grisou.
Ah, le grisou.
C'est le grisou qu'on pourrait récupérer.
Et voilà, et donc, qui contient du méthane et qu'on pourrait donc récupérer.
Et qu'on exploiterait avec la fracturation hydraulique aussi ?
Eh bien oui, parce qu'il n'y a pas d'autre technique.
D'accord.
Voilà. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que tous les permis qui ont été délivrés soient annulés.
D'accord, donc c'est ça, c'est l'annulation de tous les permis, quels qu'ils soient.
Oui.
Pour interdire définitivement l'exploitation et l'exploration des gaz de schiste.
Enfin, gaz, pétrole. De schiste, de houille, enfin bon, bref, toutes ces énergies carbonées qui polluent et qui nous posent problème dans le contexte du réchauffement climatique.
Alors, il y a une autre question, effectivement, quand on regarde les États-Unis, on a deux échos. Le premier, c'est miracle économique, et le deuxième, c'est catastrophe environnementale. Quel regard portez-vous, justement, vous, sur l'aspect économique des gaz de schiste ?
Alors, c'est vrai que les États-Unis...
En période de crise, pardon, tout le monde est là, c'est de l'énergie bon marché, elle est sous nos pieds, il nous la faut.
Oui, alors, moi, je pense qu'il faut nuancer, parce que le gaz de schiste en France, c'est basé sur des estimations. Hein. C'est-à-dire qu'il y a estimation des ressources. Hein. À un moment donné, on disait qu'il y avait des ressources pour 100 ans. Maintenant, on s'aperçoit qu'on a diminué de 25% et c'est pour 75 ans. Estimation sur le nombre d'emplois créés. C'est vrai qu'il y a pas mal d'emplois créés, mais on n'a jamais fait le parallèle avec les emplois qui sont détruits, notamment dans le tourisme, dans l'agriculture, ainsi de suite. Donc, il n'y a jamais ça. En moyenne, le total estime qu'il y a un emploi par puits. Donc, ce n'est pas l'Eldorado.
Hein. Oui, je crois qu'aux États-Unis, il y a 700 000 emplois créés pour 700 000 puits en exploitation.
Bah oui, donc voilà.
Et ce sont des emplois précaires parce que ce sont plutôt des routiers, des gens qui posent des tuyaux. Ils restent un an, deux ans ou trois ans et puis ils s'en vont.
Mais de toute façon, ces emplois, ce sont des équipes. On le voit bien en France. Ce sont des équipes qui bougent de forage en forage. Et en réalité, il ne reste plus qu'une personne pour surveiller le site. Et voilà. Donc, si on voulait, comme dit le MEDEF, créer 100 000 emplois, il faudrait s'en faire 100 000 puits en France. Alors... Quel problème ?
Ce qui est juste impossible dans nos régions en particulier, où la population est quand même beaucoup plus concentrée qu'aux États-Unis, où ce sont parfois des quasi-déserts.
Ah bah oui, de toute façon, alors moi je pense que sur la plaine de Montélimar, le seul désert qu'il y aurait, enfin, où il n'y a pas de maison, c'est le site de la future gare TGV. Ça serait rigolo qu'on mette des puits là, sur ce site-là.
Oui, c'est vrai que ça serait un peu choquant d'avoir des dériques autour de la grotte Chauvet, par exemple.
Ouais.
Or, c'est dans le permis total, je crois, justement.
Oui, tout à fait, oui.
Donc, vous pensez qu'effectivement, économiquement parlant, les gaz de schiste n'ont pas fait la preuve qu'elles pourraient être la solution miracle pour résoudre la crise économique que nous traversons?
Non, économiquement, puis de toute façon, on exclut toujours le coût environnemental. Bah, c'est soit pollution de l'eau, je n'ai pas pu traiter, enfin tout le reste, mais c'est vrai que le coût environnemental n'est jamais pris en compte. Donc, et puis en plus, le gaz de schiste, il faut dire, aux États-Unis, il est largement subventionné. Et je pense que les industriels français, ils espèrent aussi que le gouvernement va subventionner, ce qui fait que les contribuables, ils vont payer deux fois leur facture d'énergie et la subvention au pétrolier. Voilà.
Anne nous parlait du grisou. Vous savez qu'on mettait des oiseaux dans les mines pour savoir s'il y a du grisou. Et bien, Béranger, le monument aux oiseaux.
Voilà le soleil, on ne l'attendait plus celui-là, qui fait fumer le vieux goudron mouillé. À moins que ce soit les phares d'une balayeuse qui racle dans la nuit toutes les saloperies. Ça y est, je l'ai enfin trouvée, mais je ne sais pas où elle est. Je marche dans la forêt des rues, je sonne au porton, crois que j'ai bu. Si jamais vous l'apercevez, dites-lui que je l'attends où elle sait. Elle ne pourra pas se tromper, ça fait 1000 ans qu'on est à se chercher. Sous le monument aux oiseaux, suspendu entre deux eaux dans le ciel. Voilà le bonheur, on ne l'attendait plus celui-là, qui me transforme en gros ballon de joie. À moins que ce soit un air comme joue mon pote le pote, qui prend mes nerfs pour des cordes à violon. Ça y est, je l'ai enfin trouvée, mais je ne sais pas où elle est. J'ai arpenté tous les quartiers, sauf les changeurs et le grand marché. Où es-tu, amour, que fais-tu? Par quel inconnu es-tu retenu? Ta mémoire s'est-elle envolée, que tu ne te souviennes vraiment plus du monument aux oiseaux, suspendu entre deux eaux dans le ciel? Voilà le printemps, on ne l'attendait plus celui-là, qui fait vibrer la ville qui dormait. À moins que ce soit tous les gaz délétères qui se propagent en pourrissant la terre. Ça y est, je l'ai enfin trouvé, mais je ne sais pas où aller. Le mieux, c'est de ne plus marcher, pas crainte de m'en éloigner. Je m'assieds dans le terrain vague, là où la lune fait pousser des forêts. Peut-être en y croyant encore, vais-je m'envoler très loin de mon corps, jusqu'au monument aux oiseaux, suspendu entre deux eaux dans le ciel.
Bonjour à tous, donc vous écoutez toujours Atomic Mac. Nous recevons Andes de la Frapna. pour parler des gaz de schiste. Et moi, j'avais une question sur l'aspect financier de l'exploitation des gaz de schiste, notamment sur l'aspect bulle spéculative et bulle financière, puisque c'est des choses qui transparaissent quand on lit un petit peu des articles sur les gaz de schiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce phénomène qui s'est produit aux États-Unis ?
Oui, alors c'est vrai qu'actuellement tous les symptômes d'une bulle financière spéculative apparaissent. Hein. Il y avait un article dans le Financial Type du 6 mai 12 qui disait que les producteurs de gaz de schiste avaient dépensé des montants 2, 3, 4, voire 5 fois supérieurs à leurs fonds propres afin d'acquérir des terres, de forer des puits et de mener à bien leur programme. Et pour financer cette ruée vers le gaz, il a fallu apporter des sommes astronomiques, dont des entreprises qui sont largement endettées. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Total s'est désengagé des États-Unis, parce qu'il disait qu'il laissait sa culotte aux États-Unis. Voilà. Alors, autre point, pour masquer cette situation catastrophique, il faut sans cesse ouvrir de nouveaux puits. Donc l'économie du gaz de schiste, c'est une pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que chaque fois le puits qui est foré rembourse les dettes du puits précédent et ainsi de suite, donc d'économie casino, tout à fait. Et ensuite donc il faudrait que presque 1000 puits supplémentaires chaque année soient forés sur le même site pour permettre aux entreprises d'équilibrer sans vouloir faire d'énormes bénéfices. Donc, d'où les symptômes du bulle financière. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'elle éclate le plus vite possible pour qu'on enterre les gaz de schiste et qu'on les laisse sous nos pieds.
Donc, du coup, qui profite du crime ? Ce sont les actionnaires qui investissent dans...
Qui profite des crimes ? Non, c'est que les Américains, ils ont une mentalité assez spéciale et ils disent toujours que, de toute façon, ces boîtes, il y a toujours un andouille qui sera capable de la racheter. Donc, ils se vendent les uns aux autres jusqu'au moment où ça va péter, quoi. Voilà.
D'accord, Anne. Donc, ni fossile, pas de gaz de schiste. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez ? Quelles alternatives ? Vers quoi on doit aller ? Comment on va se déplacer, se chauffer, s'éclairer demain ?
Bon, alors, de toute façon, le gaz de schiste, pour le moment, on n'en a pas en France. Et compte tenu de tous les problèmes, c'est pas la peine de se lancer dans l'opération. On vit sans gaz de schiste. Bon, ensuite, ni nucléaire, c'est vrai que nous sommes engagés dans la lutte à la fermeture d'un certain nombre de centrales, mais l'avenir, c'est la transition énergétique, et ça passe d'abord par des économies. Toutes les études montrent qu'on peut très bien économiser 30% de notre énergie sans nous priver, en ayant le même niveau de confort. Et ensuite, c'est le développement des énergies renouvelables, c'est toutes les énergies renouvelables, éolien, solaire, avec des mises en place de filières de recyclage des matériaux solaires, parce que ça pose problème. Mais voilà, donc on a tout en France. Simplement, on n'a pas la volonté politique de rentrer dans cette transition écologique et énergétique.
D'accord, donc comme le disaient les manifestants à Montélimar, le réchauffement climatique, c'est pas automatique. Oui. Les énergies carbonées, laissons-les sous nos pieds.
Voilà, tout à fait.
Dominique avait une question, je crois.
Oui, Alain, tu parlais du mouvement et notamment des manifestations. Je crois qu'il faut quand même... en Ardèche notamment, mais également en Drôme, on a vu un mouvement populaire extrêmement fort. En Ardèche, ça a été évident, avec une très grande manifestation, etc. Ce mouvement anti-gaz de schiste, il y a une partie, j'imagine, de la population qui veut pas de ça chez elle, hein, pas chez moi, quoi, en gros, mais qui, à la limite, si c'était ailleurs, peut-être dirait pas non. On a vu, nous, quelques petits problèmes avec le lien avec l'anti-nucléaire, justement. C'est-à-dire qu'on pouvait être anti-gaz de schiste, mais pas spécialement anti-nucléaire, alors que les militants anti-nucléaires, aujourd'hui, essayent d'insister sur le fait qu'il faut faire la jonction de toutes ces luttes pour, justement, des énergies propres et durables. Bon, comment ça se passe dans le mouvement anti-gaz de schiste ? Est-ce que maintenant, cette option qui est de dire pas de gaz de schiste, pas de nucléaire, passe aussi un peu dans les esprits ?
Il faut savoir que les collectifs, ce sont des citoyens. Et c'est assez curieux, parce qu'à Montélimar, il y avait des citoyens, c'était leur première manifestation de désapprobation face à un phénomène. Et je pense qu'on a dépassé le stade « pas dans mon jardin », ainsi de suite. Les gens commencent à prendre conscience à partir du gaz de schiste, et je crois que c'est notre rôle, nous, au niveau association de protection de l'environnement, de leur faire comprendre que le gaz de schiste est un élément du puzzle de la transition énergétique. Et c'est là, et ils commencent à comprendre. Alors c'est vrai que moi je trouve que ce mouvement de gaz de schiste, c'est un mouvement citoyen formidable, parce que depuis février 2011, les collectifs au niveau France se créent, hein, au gré de la découverte des permis, parce qu'on ne savait rien. Personne ne savait ce que c'était que l'exploitation des gaz de schiste. Hein, il a fallu partir de zéro. Il y a toute une information, parce que tout ce qui s'est fait à Catimini au niveau du ministère, il a fallu refaire la liste de tous les permis. Et d'ailleurs, Nicole Bric a été virée parce qu'elle nous a sorti la liste de toutes les autorisations. Hein, il ne faut pas l'oublier quand même. Et donc, cette action citoyenne, je crois que c'est un formidable mouvement pour former les gens à l'action collective, avoir des objectifs communs, et c'est à nous, associations, leur faire comprendre que c'est un mouvement global. Alors moi, je dirais, je fais un peu d'autosatisfaction, parce que je veux dire que on a obtenu depuis 2 ans et demi, on a quand même bloqué le système, et que si on n'avait pas été là, il y aurait eu des puits à Villeneuve-de-Berg et dans la plaine de Montélimar, il ne faut pas se leurrer. Donc, on a obtenu une loi, maintenant, on se bagarre pour que le code minier aille dans notre sens, et on continue pour qu'on n'en a pas. Et je pense que les gens, maintenant, ne vont pas s'arrêter. Donc, après, gaz de schiste, quand on l'aura bien laissé sous nos pieds, on passera au nucléaire, on passera à autre chose, parce qu'il y a de l'agriculture productiviste, il y a énormément de choses. Donc, c'est un mouvement de fond, et je le vois bien au niveau de la FRAPNA. Il y a des personnes de collectifs qui adhèrent maintenant à la FRAPNA. Donc, ont pris conscience et qui veulent s'investir. Et je dirais que dans les collectifs, il y a une satisfaction, c'est qu'il y a une majorité de femmes pour une fois. Il n'y a pas que les hommes sont minoritaires. C'est une bonne chose.
Alors, ces collectifs citoyens, effectivement, sont en train de se multiplier, comme vous le disiez, Anne, au gré des permis. Mais dans la Drôme en particulier, je crois qu'il y a plusieurs collectifs. Ils sont 5, il me semble.
Il y a des collectifs, alors c'est un peu protéiforme, les collectifs s'inscrivent, on ne sait pas trop comment ça vit, il y a des animateurs, je dirais qu'il y a le Val-de-Drôme qui fonctionne très bien, il y a Montélimar qui a émergé et qui fonctionne, il y a le collectif Royanne, Roanac, Nord-Drôme, on ne sait pas trop ce qui se passe, Valentinois, on ne sait pas trop. Alors, donc c'est ça, mais c'est un peu dans tous les départements, c'est-à-dire que c'est en fonction des personnes qui veulent bien s'investir.
D'accord. En tout cas, si vous vous sentez concerné, si vous voulez adhérer à ces collectifs citoyens, allez sur le site collectif non au gaz de schiste Drôme et vous aurez toutes les informations. Merci Anne.
Merci.
Merci Anne. Et Céline, tu vas nous faire dresser un panorama des actions à venir.
C'est ça, l'agenda du mois de novembre.
L'agenda
des actions à venir. Donc tout d'abord, alors c'est pas vraiment une action, c'est plutôt une information. Donc demain, 5 novembre, à Saint-Paul-Trois-Châteaux, se tiendra une réunion publique sur le plan particulier d'intervention du site nucléaire du Tricastin. Donc ce fameux PPI dont on parle assez régulièrement à Atomic Mac. Donc cette réunion publique se tient notamment en lien avec l'exercice national de crise nucléaire qui aura lieu le 7 novembre donc sur le site du Tricastin, où en gros les autorités simuleront un accident nucléaire afin de voir comment ce fameux plan réagit et comment les gens sont organisés et les autorités sont organisées pour gérer ça. Donc cette réunion publique se tiendra demain à Saint-Paul-Trois-Châteaux à 18h à la salle Fontaine. Donc si ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on va tenter de faire croire à la population qu'en cas d'accident tout sera sous contrôle, rendez-vous à cette réunion publique demain soir à 18h. Une action cette fois-ci donc en lien avec cet exercice du 7 novembre, le CAN 84, le collectif nucléaire collectif antinucléaire du Vaucluse, propose une action de désobéissance civile et de perturbation citoyenne donc de cet exercice. Donc si vous voulez en savoir plus, contactez-les par mail à l'adresse collectifantinucléaire84@hotmail.fr.
Et sortir du nucléaire d'Ombardèche appelle à ces manifestations.
Tout à fait. Lundi 11 novembre, alors comme vous le savez depuis quelques mois, sortir du nucléaire en Dromardèche a initié une manifestation mensuelle tous les 11 du mois, donc en commémoration de l'accident de Fukushima, et également sur la base d'une idée originaire à la base de SDN Bugey, de Stop Bugey. Donc ils font une réunion mensuelle aux alentours du 11. Donc nous, cette fois-ci, comme c'est un jour particulier, le 11 novembre, que c'est un jour férié, nous ne trouverons pas sur le rond-point situé en dessous de la préfecture comme à notre habitude. mais nous serons au parc Jouvet vers le monument aux morts à Valence. Et donc on va profiter du 11 novembre, qui est quand même la commémoration de la fin de la guerre 14-18, pour avoir un message pacifiste et parler notamment de l'arrêt de l'armement nucléaire, l'arrêt de l'utilisation, enfin en tout cas de l'entretien de cet armement, qui nous semble parfaitement dépassé et dangereux. Voilà, donc en parallèle sur cette action, donc je vais parler de l'action de SDNBG qui se tiendra le 9 novembre au rond-point d'Ambérieu. Donc ils fêteront les 2 ans de leur manifestation. Ça se passera de 9h à 16h et la presse est invitée en fin de matinée s'ils souhaitent recueillir des impressions, des informations.
En rappelant que Buget menace la Drôme aussi.
Tout à fait.
Fait partie des
absolument.
Réacteurs qui nous menacent
absolument.
Également.
Ambérieu, c'est dans le département de l'Ain.
C'est
l'Ain,
oui, d'accord. Absolument. Du 18 au 22 novembre à Valence, il y aura un stage proposé par Tilleul et Tripalium. Donc un stage de construction, d'autoconstruction d'une éolienne. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez aller sur le site de Tilleul, www.tilleul.com, ou sur le site de Tripalium, www.tripalium.org. Le 25 novembre, donc qui est le dernier lundi du mois, à 18h30 au local de la Frapna à Valence, avenue Verdun, notre réunion mensuelle, sortir du nucléaire en Dromardèche, donc vous êtes bien évidemment les bienvenus. Le 26 novembre est organisé donc par sortie du nucléaire en Dromardèche, là encore à ce local de la Frapna, une réunion d'information sur le nucléaire. Donc ça sera de l'information, pas celle qui passe à la télé, mais un petit peu une autre version des choses. Donc cette réunion est tout publique et aura lieu à 18h30 au local de la Frapna. Voilà, j'en ai fini pour l'agenda. Donc cette émission a été présentée par Dominique, avec l'intervention d'Alain, de Georges, de Pierrick.
Et de Céline.
Même Simon à la technique, avec accompagné de Thomas aujourd'hui. Donc au niveau des chansons, vous avez entendu donc aujourd'hui une spéciale François Béranger avec « Vous n'aurez pas ma fleur », « Le monument aux oiseaux » et on va finir avec « Tranche de vie ». Mais juste avant ça, je vous annonce quand même la prochaine émission Atomic Mac qui se tiendra le 2 décembre. Et je vous rappelle le répondeur sur lequel vous pouvez nous laisser vos questions au 08 05 69 67 58.
Dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Matin faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère elle était toute paumée sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir essayer non, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Faire mon éducation, y a la communale en béton. Là on fait de la pédagogie devant 60 mots en furie. En plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit. Je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à fouetter des pièces de bagnole. 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé. Pour le monde on a de la tendresse. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. On en a un peu là-dedans, on irait.
reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruyant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Sur la maison Poulaga, agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote donne la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Horace Kabili Mitidja. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Voilà, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé. J'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons. Enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse. Rapport à mes...